Vous écoutez RTL.
Aujourd'hui, on va encore jouer au jeu des prénoms.
Ah bah c'est tous les jours maintenant alors, ça va donner quoi ?
Simple, comme nous allons à Budapest, vous allez m'appeler François-Joseph.
Pourquoi pas Jean-Pierre aussi ?
Et moi je vous appellerai Sissi et vous serez mon impératrice.
Ah bah dans ce cas ça se refuse pas.
Générique.
RTL Autour du Monde, présenté par Jean-Sébastien Petit-Demange et Sidonie Bonnec.
Bonjour à tous, bienvenue dans votre Tour du Monde. Tous les jours de l'été, c'était une habitude. Maintenant, nous parcourons le monde à la découverte des plus belles villes. Et puis, nous jouons aussi pour vous faire gagner des guides du routeur, des montres RTL et puis des vacances, de très belles vacances. Aujourd'hui, il y a une semaine à gagner pour 4 personnes dans l'une des 80 résidences Pierre et Vacances en France. 80, il y en a partout. Pour jouer, appelez-nous au 3210 ou inscrivez-vous sur rtl.fr. Bonjour France,
bonjour
Jean-Sébastien
si.
Petit-Demange.
Ça nous va bien. Vous Sissi, ça vous va bien.
Ah mais vous aussi France.
Oui mais c'est moins logique.
Oui d'accord, bah, voilà. Je prends Sissi, je trouve ça
voilà,
très joli.
Très bien,
c'est magnifique. Un diminutif de Sidonie finalement.
Bah oui, exactement. Il y en a là-dedans. Hein.
C'est bien fait tout de même. Hein. Cette semaine on s'offre un tour d'Europe. Hein, et puis aujourd'hui on découvre la Hongrie et sa capitale. Budapest.
Car l'Orient commence aux portes de Vienne, disait Metternich en évoquant la Hongrie. 93 000 kilomètres carrés, c'est trois fois la Belgique. Ça ressemble par certains aspects à l'Autriche, tout en ouvrant déjà la porte vers un autre monde. La Hongrie, elle occupe le centre du bassin danubien où alternent les villes d'eau, les cités baroques, les bourgades champêtres. Il n'y a pas de paysage grandiose, pas de paysage déchiqueté, mais une certaine douceur qui rappelle la Mittel Europa. Et Budapest est nourrie d'une histoire à la fois splendide et douloureuse, parce que nombre d'envahisseurs ont convoité, ont occupé la cité danubienne, placée sur la route de Vienne, comme une espèce de ligne de démarcation imaginaire, justement, entre Orient et Occident. Et on est bel et bien dans cette Europe centrale. Budapest, c'est une ville qui a été très riche, très belle, très cosmopolite, très prospère. La fête s'est arrêtée. Au milieu du XXe siècle, les diables de l'histoire ont semé la terreur, mais elle a été blessée par les guerres, elle a été meurtrie par le nazisme, elle a été appauvrie par le communisme. Finalement, elle a été dépouillée d'une part importante de son âme, mais la grande dame qu'on croyait mourante retrouve son lustre à la faveur de son entrée dans l'Union européenne. Aujourd'hui, Budapest, c'est une capitale brillante, vibrante, jeune, à la fois traditionnelle et remplie de modernité. C'est une des villes européennes qui bouge le plus, une ville d'1 700 000 habitants qui a le vent en poupe. C'est pour ça que nous allons y passer 2 heures.
Et Jean-Sébastien Petit-Demange pour découvrir la belle dame hongroise, des artistes et des amoureux, le peintre Ivanor, le guide Pascal et la chanteuse Mélanie Pain. En route.
RTL Autour du Monde.
Nous sommes à Budapest aujourd'hui et pour la découvrir, Ivanor, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors on ne vous appelle pas à Budapest, mais à Saint-Tropez où vous vous êtes installé il y a quelques années. Vous êtes artiste peintre, vous êtes né en Hongrie. Comment vous êtes arrivé en France, Ivanor ?
Alors écoutez, je suis arrivé en France en 1956, après cette triste révolution. D'ailleurs, j'ai sensiblement, en tant qu'artiste, je pense sans cesse aux enfants qui sont dans les mêmes malheurs que j'ai connus à l'âge de 13 ans, si vous voulez, des horribles actions des adultes. Si vous voulez, j'étais donc à Budapest au moment des événements, on peut dire une sorte de guerre civile. Et je venais de tourner à l'époque un rôle principal dans un film hongrois où j'étais choisi sur 6000 enfants. Enfin, j'ai vraiment une enfance assez différente, mais j'étais tellement surpris par cette révolution qu'avec un ami de classe, on a dit, bon ben, notre carrière c'est foutu, ici on doit quitter le pays. Imaginez la tête. Maintenant, quand je vois des gosses de 13 ans, je disais, et puis c'est ça qui me fait penser à ce qui se passe actuellement. Vous voyez, je saute de coquelin dans le monde, vous voyez, parce que les enfants, ils sont victimes de tout ça. Bon.
Et donc, Ivanor, vous avez eu une chouette enfance, que tout de même en Hongrie, vous en avez des bons souvenirs avant ce soulèvement de Budapest.
Justement, très chouette, la ville, l'île Sainte-Marguerite avec les piscines où les adultes apprenaient à jouer aux échecs aux enfants. Vous voyez, c'est là qu'on voit des fois dans les films, on voit que la tête des gens et ils jouent aux échecs. Alors là, j'ai vécu ça parce que les classes sont amenées là-dedans. Ils étaient amenés, alors donc on pouvait... pouvez vraiment connaître ça de très près.
Ivanov, est-ce qu'aujourd'hui vous retournez à Budapest parfois?
Alors écoutez, dès que c'était possible après les années 60-70, et c'est grâce à un petit peu la culture organisée par Budapest, les festivals de Budapest de printemps. Où j'ai eu la chance de, à l'époque, je sais pas si vous avez connu vous Tifra, le grand pianiste hongrois, et sa femme, ils avaient une fondation à Senlis où j'ai exposé, et ils m'ont invité à participer avec un autre peintre français à Budapest, et j'ai redécouvert, alors, avec toute la famille, mes frères et mes sœurs attendaient à l'aéroport l'enfant qui est revenu après, à l'époque, on va dire, 18 ans de séparation, parce que bon, maintenant tout le monde pense que tout était, comme maintenant, pas du tout.
Qu'est-ce que vous avez aimé retrouver justement à Budapest, Ivanov?
Alors, ce que j'ai aimé retrouver dans on va dire mon pays natal, c'est justement cette. C'est des très grands travailleurs. C'est pas pour dire, les Hongrois, ils travaillent même le dimanche, ils sont toujours en mouvement, il n'y a pas tellement de.
Il y a une vie à Budapest, c'est ça qui vous a plu? C'est une sorte de mouvement perpétuel?
Cette vie active et si vous voulez, ça grouille de partout et c'est... Par contre, ma punition était, si je peux ajouter, voyez, l'émigré est toujours quelque part rattrapé. Si vous voulez, ça va faire sourire, surtout mes amis qui me connaissent par ailleurs, c'est que je n'ai jamais revu, même maintenant, depuis 1956, je n'ai jamais revu mon pays natal avec des feuilles vertes sur les arbres.
Et pourquoi ça?
Ben oui, c'est pourquoi, parce que par exemple Saint-Tropez où je vis depuis 44 ans, j'exerce ma vie d'artiste avec mon atelier ouvert au public et tout, il est évident que je n'ai jamais pu m'absenter l'été.
On va continuer notre découverte de Budapest et puis vous allez nous préparer quelques petits endroits à nous faire découvrir. À tout de suite, Ivanov.
À tout de suite.
Jusqu'à 16h.
RTL autour du monde.
Nous sommes à Budapest avec le peintre Ivanov. Ivan, Budapest, oui, est une ville à deux rives, deux visages. Il y a Buda et Pest. Lequel de ces deux visages vous préférez?
Alors, personnellement, je préfère Pest.
Pourquoi?
Pour moi. Parce que, bon, pour nous, Buda, ceci dit, quand on était tout petit, donc mes souvenirs remontent vers Buda. Pourquoi? Parce que les enfants, à l'époque, ont fabriqué des rollers, des espèces de planches avec quatre petits trous roulement à billes, et on ne pouvait descendre que les collines de Buda. Et, bon, ça, c'est des souvenirs de l'enfant.
Mais, et aujourd'hui, Pest, adulte, vous préférez Pest. Pourquoi?
Oui, parce que bon, c'est beaucoup plus, quand même, on va dire, animé. Il y a énormément de tous les grands événements, les musées, les
c'est une ville plus moderne thermales. Aussi, Pest. C'est la partie un peu moderne de la ville.
Exactement. Et Buda, c'est plus, si vous voulez, imaginons, bon, je ne veux pas faire de comparaison avec à Lyon, Caluy ou les collines de Vénissieux, où, vous voyez, c'est des maisons avec des jardins, des villas. Et puis pour nous, Gauss à l'époque, c'était entre guillemets, c'était le quartier riche, quoi. Quartier, oui, un peu inaccessible. Enfin bon. Donc c'est quand même. Attendez, il y a quand même le château, il y a. J'ai visité. En fait, il faut dire que j'ai beaucoup visité Budapest grâce à mon enfant unique, ma fille qui a que 12 ans.
Et récemment,
elle est venue la première fois à Budapest avec sa mère. On a fait un tour. Elle ne parle pas un mot hongrois, mais malgré tout, c'est elle qui m'a fait découvrir, et croyez-moi, de fond en comble, Buda.
Ivanov, c'est une ville d'art, la Hongrie, enfin la Budapest en Hongrie?
Oui, on va dire oui.
C'est
vraiment une ville d'art. Disons qu'il y a une richesse et dans les musées nationaux et dans les et il y a une vie, un mouvement avec des galeries et des expositions avec des échanges culturels permanents avec aussi bien la France que d'autres pays. Non, c'est vraiment...
Qu'est-ce qu'on découvre de hongrois dans votre art qui est assez particulier, parce que vous avez inventé un genre, une sorte de mise en scène de petits bateaux en 3D, c'est très particulier. On a mis d'ailleurs sur le site internet RTL Autour du Monde pour que, le lien qui renvoie à vos œuvres pour qu'on découvre votre art. Ces petits bateaux, c'est une allusion au Danube, enfin, ou alors ça n'a absolument rien à voir.
Certainement, peut-être sûrement quelque chose, évidemment, comme beaucoup d'enfants, c'est international, qui m'a frappé quand j'étais enfant, mais c'est surtout à Saint-Tropez, un peu, beaucoup grâce à Patrice de Colmont, qui était le fondateur de la première New Largue organisée, vous savez, parce que beaucoup de gens connaissent Saint-Tropez avec les paquebots, les yachts, les super...
mais aussi les petits bateaux.
Building à marée. Mais après, au mois d'octobre, ceci était la déclencheur de mon art avec les petits bateaux. C'était que à Saint-Tropez, il y a cette course annuelle qui s'appelle maintenant les voiles de Saint-Tropez, où il y a vraiment une compétition sur la mer.
On peut découvrir vos œuvres où, Ivanor, à Saint-Tropez?
Ah bien, écoutez, je suis dans l'atelier rue des Remparts, dans la vieille ville, où je me trouve moi-même, je reçois les gens, je fais quelques petits formats ici sur place, mais disons que je varie. Il y a les petits bateaux, mais il y a aussi le tennis, le golf, le football, les voitures de course, si vous voulez, les
vous
petits bateaux
terrain.
Servent d'éléments de décor.
Merci infiniment, Ivanor.
Chaque après-midi, RTL Autour du Monde.
Denis Bonnec, Jean-Sébastien Petit-Demange.
On fait une petite pause à Budapest pour jouer. Ce sont des questions de culture générale qui concernent Budapest et puis la Hongrie également. Je vous rappelle qu'il y a un séjour à gagner pour 4 personnes, 7 nuits très précisément, dans l'une des 80 résidences Pierre et Vacances. Il y a des guides du routard, il y a des montres RTL et des auditeurs pour jouer. Bonjour Serge. Bonjour Serge.
Et je voudrais bien gagner un voyage.
Ah ben vous me le demandez si gentiment que...
Même la montre. Depuis le temps que je n'ai pas gagné la montre, années.
Ah, de toute manière, c'est fait, vous l'avez gagné la montre. De toute manière, avant même de jouer, quelle chance.
Oui, je sais. Je suis l'éditeur d'appel.
Vous nous appelez d'où, Serge?
Ou de la région parisienne.
Ah oh ben c'est très bien.
Voilà. C'est très bien. Oui, on y vit très bien.
On y vit très bien. Je vous propose de jouer, Serge. Trois questions pour vous.
Oui.
On y va. Dans quelle partie de Budapest peut-on visiter le château royal? À Buda ou à Pest?
Pas du tout. Buda.
Où peut-on déguster du vin en Hongrie? Dans les Borozo ou les Sorozo?
Oh là là là, je ne sais pas, Borozo.
C'est noté.
Dernière question pour vous, Serge. Qu'a inventé Joseph Laszlo Biro, journaliste d'origine hongroise, en 1938? Il a inventé le papier de verre ou le stylo à billes?
Papier de verre.
C'est noté. Alors, Serge, à Budapest, effectivement, on peut voir effectivement le château. On l'a dit tout à l'heure avec Ivanor, Buda, c'est le quartier du château. Pest, c'est la ville plus moderne. Il y a 23 arrondissements à Budapest. Et c'est important de connaître l'arrondissement dans lequel on va. Parce qu'il y a des rues qui portent le même nom pratiquement dans chaque arrondissement. Vous avez des noms de rues qu'on en retrouve 10 ou 15 fois dans la ville. Donc l'importance
sans
de connaître
l'arrondissement, c'est fichu.
Ah ben, on peut tourner pendant un moment. Hein, dans un taxi, ça peut prendre un certain temps. Donc c'est un premier point. Le vin en Hongrie, on le boit notamment dans les Borozo. Les Borozo, en fait, ce sont des caves à vin, des bars à vin. Et c'est très drôle parce qu'à une époque, on avait le vin directement dans le et on servait le vin à la louche. Les tonneaux étaient sous le bar et on servait le vin à la louche dans les verres. Et c'est vrai que la Hongrie est le principal producteur de vin de l'Est de l'Europe. Dès le XVIIe siècle, on a favorisé l'implantation des viticulteurs lorrains et wallons expérimentés en Hongrie. Et il y a aujourd'hui 22 régions viticoles dans toute la Hongrie, avec notamment ce fabuleux Tokaj, ce vin moelleux extraordinaire. C'est un deuxième point. Mais vous n'en marquez pas un troisième, Serge, parce que Joseph Laszlo Biro a inventé le stylo à billes. Ça n'est pas le baron Bic, comme on peut le croire. Biro déposa un brevet en 1938. La Royal Air Force a acheté les droits de ce brevet. Elle les a revendus à une boîte américaine. Et le baron Bic a amélioré, en fait, ce système. Et dans certains pays, il faut savoir que stylo à billes, ça se dit Biro. Comme nous, en France, on dit un Bic. Deux points pour vous, Serge.
C'est carrément pas mal.
Ah oui.
Bonjour, Marie.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Oui, très bien.
Vous nous appelez d'où ?
Thonon-les-Bains.
Parfait. Vous avez beau temps ?
Oh, magnifique.
Oh, bon. On joue ?
Bonjour.
On se fait du bien, on continue. On vous envie un peu, c'est pour ça. Trois questions pour vous, Marie. La deuxième semaine d'août a lieu le Sziget Festival à Budapest. Que signifie le mot Sziget ? Ça signifie île ? Ou colline.
Colline.
C'est noté.
Qu'ont découvert des spéléologues hongrois en 2008 à Budapest ? Des centaines de tombeaux de guerriers huns ou un lac souterrain d'eau chaude ?
Un lac souterrain d'eau chaude.
C'est noté.
Dernière question pour vous, Marie. Qu'ont dû inventer les Hongrois après l'invasion de leur pays par les Turcs ? Une nouvelle façon de cultiver la vigne ou bien un nouveau champ patriotique ?
C'est noté. Alors, la deuxième semaine d'août, effectivement, ça aura lieu cette année du 6 au 13 août, ce Sziget Festival. Mais Sziget, je suis désolé, c'est pas une colline, c'est une île. Et d'ailleurs, Sziget Festival, parce que c'est sur l'île d'Obuda que se tient ce festival qui réunit quand même chaque été 400 000 spectateurs sur 18 scènes différentes. Ça va du jazz au heavy metal, en passant par le rock, par la scène tzigane.
J'allais vous demander la programmation. Mais...
Ah bah alors, il y a LMFAO.
Comme à chaque fois,
qui vient. Vous avez Snoop Dogg qui sera là-bas le 8 août, je crois. Et puis les potes.
C'est un collab. Hein,
attends, mais là maintenant sur les festivals, c'est un bonheur, j'y connais tous dans le monde entier. Les spéléologues en 2008, ils ont découvert un lac souterrain d'eau chaude. C'est une bonne réponse. Sous le cœur de Budapest, un gigantesque lac souterrain à 80 mètres où l'eau est à 28 degrés. C'est le plus grand lac souterrain du monde qu'ils ont découvert sous Budapest. C'est un premier point. Je suis désolé, vous n'égalisez pas avec Serge, Marie, parce que les Hongrois n'ont pas inventé un nouveau champ patriotique, mais une nouvelle façon de cultiver la vigne. Quand les Ottomans sont arrivés, ils ont interdit la culture de la vigne. Et à Badakhshani, des viticulteurs imaginatifs ont trouvé une solution. En fait, ils ont déplacé les ceps de vigne et les ont plantés au pied des arbres. Ce qui fait que ça s'est enroulé comme des lianes et ils ont réussi à continuer à faire, à faire du vin en loose day, comme ça, contre l'envahisseur. Je ne vous cache pas que pour vendanger sur les troncs d'arbres, c'est pas simple.
Échelle ou échelle, voilà. Vous avez raison, Marie.
Exactement. Montre RTL et guide du routard pour vous, Marie.
Ah, super, je vais marcher le bras en l'air.
Merci d'avoir joué avec nous.
Merci.
À
bel
bientôt.
Après-midi. Et Serge, on vous retrouve en finale.
À tout à l'heure pour la finale.
Chaque après-midi, RTL autour du monde.
Jean-Sébastien Petit-Demange, Sidonie Bonnec.
Mélanie Pain, bonjour.
Bonjour.
On vous a déjà reçu l'été dernier, c'était pour Barcelone, je crois, parce que vous êtes chanteuse, vous faites le tour du monde plusieurs fois par an presque, j'ai envie de dire, non, avec Nouvelle Vague et votre projet solo. Je sais que Budapest a une place privilégiée dans votre cœur.
Oui, Budapest, c'est un peu, pour moi, le milieu de l'Europe, l'Europe centrale, et c'est assez magique, quoi. À chaque fois que j'y vais, le château, ça fait un petit peu château de la Belle au Bois Dormant, il y a... Il y a un côté très conte, mythe, légende populaire et tout ça. C'est très chargé, je trouve, comme ville.
C'est une ville historique, c'est ça ? C'est très très ancien ou il y a aussi une ville moderne ?
C'est un peu un mélange, mais c'est la ville historique est quand même assez incroyable. Il y a une petite colline, il y a le château tout en haut. On monte par des petits escaliers et d'un coup, on a la vue, surtout le bateau en bas. La ville historique, c'est ce qui m'intéresse le plus. À chaque fois, je vais dans des petits cafés, dans des petits restaurants là-bas.
Budapest, c'est une ville qui vous fait penser à une autre ville dans le monde ou en Europe ou en France même peut-être ?
Ça me fait penser un peu à Prague. C'est un peu le même genre d'ambiance en fait. On sent vraiment qu'il y a une culture très forte, beaucoup d'histoires, les gens ont beaucoup d'histoires à raconter. Je sais pas comment...
C'est intense, c'est ça ?
Ouais, c'est assez intense. Ouais, très cultivé, culturel, je trouve ça vraiment sympa.
Mélanie, pas est-ce que vous diriez que Budapest c'est une ville romantique aussi, parce que vous parliez de Prague?
Ah, c'est extrêmement romantique. Bah, le Danube, déjà, voilà. Les petites balades au bord du Danube, c'est assez sympa. Le château, qui est incroyable. Non, c'est assez romantique. Et puis les petits cafés, c'est toujours des petits cafés assez sombres, avec des petites bougies, des choses comme ça, des petites dentelles. Alors, c'est très romantique, ouais.
Pour le visiteur, c'est une ville accueillante, c'est-à-dire on s'y intègre vite, on s'y sent bien rapidement.
Oui, c'est assez vivant le soir, beaucoup de petits bars et tout ça. Et les gens aiment beaucoup parler à des Français, à des Anglais. Enfin, ils sont très contents, très fiers de leur ville. Donc, du coup, ils aiment venir vous expliquer, vous parler, vous raconter des choses, vous emmener. Moi, à chaque fois, je finis avec des gens de là-bas qui m'emmènent dans un petit café que je connais pas et qui me racontent voilà pourquoi c'est là qu'il faut aller, etc.
Chanter devant les Hongrois, parce que vous y êtes allé pour plusieurs concerts, c'est comment? C'est un public chaleureux?
Ils sont très chaleureux, ils sont très vivants. C'est quand même Budapest, c'est un peu aussi la culture musicale un peu gypsy et tout ça, tzigane. Donc c'est très joyeux, c'est vraiment les gens chantent, les gens parlent, les gens boivent, c'est très bruyant, c'est très Europe de l'Est, Europe centrale, comme on s'imagine, quoi, un peu les films de Kusturica, etc. Les soirées bien arrosées.
Alors justement, elle est comment la nuit là-bas? Après le concert, par exemple, parce que je sais qu'il y a toujours ce qu'on appelle l'after show, c'est-à-dire il y a le concert et puis il y a le moment où on se détend et où les artistes comme vous vont profiter de la ville, rencontrer leur public.
En fait, il faut faire très attention à l'alcool local. Parce que c'est très très fort et ils font tout ça un peu dans leur cave ou leur grand-mère, etc. Donc il faut faire très attention. Ça peut vraiment partir très très vite. Et non, mais c'est très sympa. Il y a vraiment ce côté assez communautaire qui fait du bien en fait. Moi, je suis française, j'ai l'habitude des cafés parisiens où bon, tout le monde se tient bien, etc. Là, c'est vrai que ça, c'est un
côté... On se tient mal.
Ça dérape un peu, on danse, on est très bruyant, on renverse des verres. Enfin, c'est vrai que ça, c'est ce côté très vivant qui est super sympa, quoi. Et il faut absolument aller dans cette salle de concert qui est un ancien bateau qui s'appelle l'A38. Mm-hmm. Et c'est incroyable, quoi. C'est un ancien bateau, mais assez gros. Et ils en ont fait un très beau restaurant sur la terrasse du bateau. Dessous, dans la cave, il y a une énorme salle de concert qui doit faire 600 places, un truc comme ça. Très très bonne programmation. Moi, j'ai joué plusieurs fois et il faut venir des gens de partout. Donc, non, très très bien.
Mélanie Pain, merci beaucoup de nous avoir fait voyager un petit peu avec vous. J'imagine que vous êtes encore en concert, en tournée, sur les routes les jours qui viennent?
Je serai à Paris, en fait. Je fais un concert par mois, septembre, octobre, novembre, décembre, au Divan du Monde. Donc,
ça,
donc
c'est pour là, votre album solo?
Ouais, pour mon album solo.
On actualisera la page RTL Autour du Monde sur RTL.fr avec vos dates.
Merci à vous.
Bonne route. À bientôt. Ouais.
Chaque après-midi, RTL Autour du Monde.
Jean-Sébastien Petit-Demange, vous allez nous faire découvrir les cafés hongrois. C'est un lieu de vie.
Absolument, des lieux très étonnants, très beaux, avec des terrasses la plupart du temps, avec des décors très classieux, souvent. Il faut savoir que pendant l'époque communiste, ces cafés constituaient des espaces de liberté. Ils étaient cachés aux regards indiscrets. On pouvait venir boire un verre en refaisant le monde autour de ce verre. Et j'ai rencontré il y a quelques semaines à Budapest une des grandes spécialistes de l'histoire de ces bars, de ces cafés. Elle s'appelle Noémie Sali et elle a écrit nombre d'ouvrages sur les cafés de Budapest.
Le pouvoir communiste détestait les cafés parce que le café, c'est la bastion, c'est le siège de la démocratie et donc c'était la chose la plus dangereuse du monde. Et effectivement, le café, c'était non seulement un lieu de rencontre, mais c'était aussi le centre de toutes sortes d'informations. Il y avait au premier l'information écrite, parce qu'il y avait tous les journaux possibles, accessibles à tout le monde.
C'était une vraie tradition, hein, mais carrément une habitude de vie. On allait au café le matin, à midi, le soir.
Et non seulement pour lire les journaux, mais aussi pour rencontrer les copains, discuter, pour les distractions aussi, bien évidemment. Donc il y avait toutes sortes de jeux, il y avait le billard, il y avait les échecs, on jouait, on s'amusait, on écoutait la musique. Donc il y avait les communautés, il y avait plusieurs communautés auxquelles l'individu pouvait appartenir. Mais dans les cafés, il y avait des compagnies de femmes qui se rencontraient, qui regardaient les journaux de mode venant de Paris, par exemple. Il y avait des journaux extrêmement chers que les j'ai recommandé de Paris ou de Londres, justement pour attirer une clientèle de femmes qui allaient avec les gosses. Je dis assez souvent que l'ancien café de Budapest, c'était une garderie d'adultes et on pouvait très bien y passer la journée et trouver tout, mais effectivement tout de ce qu'on peut avoir besoin.
Voir la nuit, puisque les grands cafés étaient ouverts 24 heures sur 24. Hein.
Ben exactement, oui. Donc, si on avait un appartement moche où on était sous-locataire chez une mère effrayante, on pouvait rester dans le café, on pouvait même y passer la nuit. Il y avait des chambres séparées avec les canapés qui bon, servaient aussi à beaucoup de choses, mais les pauvres jours journalistes ou les pauvres écrivains pouvaient passer la nuit, s'ils étaient copains avec le garçon en chef, ils pouvaient dormir même dans les chambres séparées des cafés.
Il y a un véritable esprit social dans ces cafés. On pourrait croire aujourd'hui que les jeunes générations ont délaissé les cafés à Budapest. En fait, c'est seulement une habitude de se rencontrer dans les cafés. Et les jeunes, eh ben aujourd'hui, ils font comme leurs parents, comme leurs grands-parents, mais un peu différemment.
Les jeunes se comportent dans les McDo ou bien dans ces fast-food comme s'ils étaient dans les cafés, comme s'ils étaient dans ces anciens locaux. C'est peut-être simplement l'esprit du coin, l'esprit de ces salles. Et ils y passent l'après-midi. C'est pas simplement la mode américaine qui les attire. C'est une question d'argent aussi. Ils y passent le temps dans les grandes surfaces. Il y a des cafés et les très jeunes, des gosses de 13-14 ans, ils s'y installent, ils y passent leur temps. Et s'ils commencent à connaître cette mode de vie, ils vont continuer ailleurs.
Si on résume et pour finir, il y a un vrai mode de vie à Budapest qui s'est toujours passé dans les cafés depuis des décennies et des décennies et on a été toujours habitué à aller au café, à rencontrer au café, à vivre et à faire du lien social, comme on dit.
Il est très intéressant qu'après le changement de système, donc ça fait déjà plus de 20 ans, la première chose qui est apparue comme signe de ce changement profond dans les âmes, c'était l'apparition des cafés. On a repris cette habitude et c'était comme quand le bouchon sort d'une bouteille de champagne d'une vitesse et d'un élan inouï. On a recommencé à fonder des cafés partout et bien sûr on tâtonne, on essaye à refaire, on ne sait pas comment, parce qu'il y a déjà deux générations de restaurateurs et deux générations de clients qui ne sait pas comment faire, qui ne sait pas comment gérer un café et comment se comporter dans un café. On doit réapprendre et on est en train de réapprendre.
On continue de se balader dans quelques instants à Budapest avec un guide, Pascal, qui vit à Budapest depuis quelques années. RTL, il est 15h.
Vous écoutez RTL.
Laurent Voulzy est en tournée tout l'été sur RTL. Chaque jour, il a choisi de partager avec nous les bons moments de son périple estival. C'est la carte postale de Laurent Voulzy.
Exclusivité RTL.
Bonjour, c'est Laurent Voulzy.
En regardant vers le pays de France,
je vous envoie une carte postale quotidienne en direct de ma tournée, le Lis and Love Tour.
Hier, j'ai fait escale à Paris, mais déjà le périple se poursuit. Je serai tout à l'heure dans un nouveau train. Je repensais ce matin en buvant mon thé à la jolie cité de Spa dans cette Belgique que j'aime et combien, de la même manière que la musique rapproche les cœurs, elle a le pouvoir de rendre semblables pendant quelques jours deux villes aussi éloignées que La Rochelle et Spa. L'une, ville de la mer devant l'Atlantique avec son air corsaire où l'amour est dehors, et l'autre, ville d'eau à des centaines de kilomètres là-haut en Wallonie avec ses hautes et confortables maisons un peu baroques et secrètes où l'amour est dedans. Eh bien, pendant une semaine, elles sont pareilles. C'est encore la magie de la musique qui opère. Je vois flâner la même foule calme qui vient étancher sa soif de paroles et de musique pendant cette semaine de francophonie. J'avais envie de me promener dans les rues, mais en période de festival, pour moi, ce n'est pas facile. Comme j'aime bien discuter avec les gens, je sais qu'après une demi-heure de promenade, j'aurai parcouru environ 4 ou 5 mètres. Là, je traverse Paris et je pars pour la Vendée.
Jusqu'au 13 août, Laurent Voulzy vous donne rendez-vous sur RTL.
À demain.
Tour du monde.
Présenté par Sidonie Bonnec et Jean-Sébastien Petit-Demange.
C'est la deuxième phase de notre jour. On a des questions de culture pour vous concernant Budapest qu'on découvre aujourd'hui, qu'on visite avec Jean-Sébastien Petit-Demange. Et des questions aussi qui concernent la Hongrie, plus généralement. Je vous rappelle qu'il y a une semaine de vacances à gagner dans l'une des 80 résidences à Pierre et Vacances des Guides du Routard, une très belle montre RTL. Jean-Sébastien me montre la sienne, oui, je n'oublie pas. Et puis nous avons deux auditeurs qui ont la chance d'être tirés au sort, d'avoir appelé. Bonjour Daniel.
Oui, bonjour Sidonie et bonjour à Jean-Sébastien.
Bonjour Daniel.
Quelle pêche Daniel, vous allez bien?
Oui, oh, très bien, oui, il fait très beau.
Vous nous écoutez?
Oui, bien sûr. Tous les jours.
Vous nous appelez d'où ?
J'habite de Loire-Atlantique, dans un petit bourg qui s'appelle Le Gavre.
Très bien, je vous propose de jouer Daniel.
Oui ?
On y va. Qui représente la statue équestre devant le château royal à Budapest ?
Saint-Étienne.
Eugène de Savoie, attendez, vous avez le choix. Eugène de Savoie ou l'empereur François-Joseph ?
Ah, Eugène de Savoie.
C'est noté.
Deuxième question, la marque automobile française Renault a confié une mission au plasticien hongrois Victor Vasarely. Laquelle ? Celle de dessiner la Renault Alpine ou celle de dépoussiérer son logo ?
Dépoussiérer son logo.
C'est noté.
Troisième et dernière question pour vous, Daniel. Quel vin blanc hongrois était apprécié par Louis XIV ? Le vin de Tokaj ou le vin... Le Tokaj, on dit, hein ?
Tokaj.
Tokaj, Jean-Sébastien. Donc le vin de Tokaj ou le vin de Kirali ?
Le vin de Tokaj.
C'est noté, Daniel. Eugène de Savoie, effectivement, il est représenté sur la statue équestre devant le château royal de Budapest. C'est lui qui a délivré Budapest du joug ottoman. Il a été nommé maréchal à 29 ans. Il est considéré comme un des plus grands stratèges militaires de l'histoire, Eugène de Savoie. Premier point. Deuxième point avec cette question sur Victor Vasarely, qui a également réalisé la façade de RTL rue Bayard, ici dans le 8e arrondissement à Paris. Il a dépoussiéré le logo Renault. C'était en 1972. Renault confie à Vasarely le soin de redesigner son emblème vieillot hérité de la régie nationale. Il a proposé du coup un losange épuré, dynamique, et c'est la Renault 5 qui a arboré la première, ce nouveau logo qui a été modifié depuis en 1992. Deuxième point. Et vous êtes définitivement incollable sur la Hongrie, Daniel, puisque vous en marquez un troisième. C'est effectivement Tokaj que Louis XIV appréciait beaucoup. Ferenc Rákóczi, prince de Transylvanie, a offert quelques bouteilles de Tokaj à Louis XIV en 1703. Il est apparu émerveillé à partir du moment où il en a bu, il en a fait l'éloge. C'est devenu le vin préféré de toutes les cours d'Europe de l'époque. Et en 1772, le Tokaj a fait l'objet du premier classement des crus dans le monde. C'est là-bas où on a inventé les classements grand cru, premier cru, etc.
Bravo,
3 points pour vous, Daniel.
Merci, c'est bien.
Bonjour Eric.
Bonjour.
Vous avez fort à faire, vous avez vu ?
Oui, tout à fait. Ouais, j'ai un adversaire redoutable.
Redoutable. Vous nous appelez d'où, Eric ?
De Clermont-Ferrand.
Est-ce qu'il fait beau par chez vous ?
Eh bien, il fait très beau, oui. C'est vrai que ça fait du bien de voir un petit peu le soleil. Et on apprécie ce temps qui revient
enfin.
De saison. Mais,
enfin.
On l'attendait.
Eric, on a 3 questions pour vous.
Je vous écoute.
C'est parti. Quelle technique les sikos des cavaliers hongrois ont-ils développée ? La poste hongroise ou la roue magyar ?
La poste hongroise.
C'est noté.
Que peut-on voir en haut des escaliers du Parlement de Budapest ? Une maquette en allumettes ou bien l'ancien trône du roi Étienne ?
L'ancien trône, oui.
C'est noté.
Le Hongrois Peter Goldmark a inventé plus de 160 objets, dont le dérouleur de scotch ou bien le disque vinyle.
Le dérouleur, oui.
C'est noté. Eric. La poste hongroise, c'est effectivement une technique qui a été développée par ces fameux cavaliers hongrois. Vous l'avez tous vu, cette position d'équitation. C'est une figure de voltige qui consiste à tenir debout en équilibre sur 2 chevaux, un pied sur chaque cheval, tout en dirigeant avec de longues rênes 5 ou 10 chevaux au galop devant soi. Eh bien, ça s'appelle la poste hongroise. Cette technique que Marc, notre réalisateur, possède magnifiquement.
Et pratique à longueur d'émission.
Cavalier voltigeur émérite. quand même été à l'école avec les bouguillonnes. Hein. Que peut-on voir en haut des escaliers du Parlement? Je suis désolé, c'est pas l'ancien trône du roi Étienne, mais c'est une fabuleuse maquette en allumettes, 200 000 allumettes. Ça a été offert par une famille hongroise qui a passé 3 ans à réaliser cette maquette. C'est absolument, c'est monstrueusement laid.
Je pourrais vous demander ce que ça représente ou poser une question?
Ça représente le Parlement.
Ah, c'est le Parlement, d'accord.
C'est absolument abject comme chose. Je suis désolé pour mes amis hongrois, mais c'est vraiment pas beau. Et il faut dire qu'ils ont même été obligés de casser la porte de l'appartement pour sortir la maquette, tellement elle est énorme. Ça fait pas vos affaires, Eric. Marquez pas de points, puis vous en marquez pas non plus avec le dérouleur de scotch, parce que Peter Goldmack, il a inventé le disque vinyle. Il a également inventé, il faut le savoir, la première télécouleur, le magnétoscope. C'est absolument hallucinant. Il a inventé 160 trucs comme ça, tous plus intelligents les uns que les autres. Et le patron de CBS, pour qui il a travaillé, disait que ce mec-là avait plus d'idées en une journée que la plupart des hommes en une vie. Exactement.
En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'Eric, vous repartez avec un guide du routard et une montre RTL, mais pas en allumettes. En vrai.
Et Daniel, bravo, est en finale.
J'étais heureux d'entendre participer à votre émission.
C'est un vrai plaisir, Eric, de vous accueillir.
Voilà.
À tout à l'heure, Daniel, pour la finale.
Oui, je vous remercie. À tout à l'heure.
Mais vous l'avez mérité.
Et bonne chance à mon adversaire. Voilà.
C'est fair play.
14h, 16h, RTL autour du monde.
Bonjour Pascal.
Bonjour, comment allez-vous?
Bah, très bien, et vous? Vous avez le soleil dans la voix?
Ouais, le soleil, il fait 35-37 degrés à Budapest, donc l'été est là. On invite les Français à venir nous rendre visite.
Vous êtes guide à Budapest, vous vous êtes installé dans cette ville il y a 10 ans. Pourquoi ce coup de cœur pour Budapest? Comment vous êtes arrivé à Budapest?
Je suis arrivé un peu plus tôt, puisque j'ai fait mon service militaire en Hongrie. Au sein de l'ambassade de France en Hongrie, donc j'y ai passé déjà 18 mois. Et en fait, j'ai décidé de revenir m'y installer.
Pascal, qu'est-ce qui vous a décidé à choisir Budapest pour vous y installer?
C'est simplement que j'avais pris peut-être le goût, le virus de vivre à l'étranger en ayant cette première expérience. Donc j'ai vécu également deux ans en Angleterre à Londres et j'ai décidé de revenir en Hongrie pour le pays et pour celle qui allait devenir ma femme également.
Ah, c'est donc une Hongroise qui vous a attiré dans ses filets à Budapest.
C'est un grand classique de Français débarquant à Budapest et se retrouvant avec une compagne hongroise.
Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette ville, Pascal?
C'est tout simplement un coup de cœur. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent ici sans connaître la ville et qui sont étonnées par la richesse architecturale de la ville, donc le patrimoine de la ville, et puis la vie même à Budapest. Il y a une vie culturelle, nocturne, assez intense.
Est-ce que vous vous êtes intégré facilement à Budapest?
S'intégrer, il faut toujours du temps pour s'intégrer dans une ville, dans une culture. Et puis, il y a bien sûr la barrière de la langue. Et le hongrois n'est pas forcément une langue facile. C'est pas la langue la plus facile à apprendre.
Vous l'avez appris?
Donc, je l'ai appris, oui, parce que c'est nécessaire pour mon travail. Et puis, c'est nécessaire pour rencontrer les gens.
Et vous êtes senti bien accueilli? Les hongrois sont accueillants? Vous ont aidé dans vos efforts, par exemple, d'apprentissage de la langue au quotidien?
Les hongrois sont très accueillants. Ils ont le sens de la fête. Et puis, ils sont sensibles comme toutes les nationalités. Quand on commence à parler la langue du pays, ils sont sensibles à ça. Et ils sont patients avec notre accent, notre fort accent français.
De vivre à Budapest, en Hongrie, Pascal, qu'est-ce que ça a changé dans votre quotidien? Je ne sais pas, des habitudes différentes, des rituels différents?
Il y a un mode de vie un peu différent, puisque les Hongrois vivent plus, j'allais dire, avec le soleil. Donc ils se lèvent plus tôt et ils se couchent plus tôt.
C'est quoi se lever tôt?
Ils peuvent facilement se lever vers 5h30, 6h. Les bains, par exemple, à Budapest, c'est vraiment un patrimoine incroyable, ouvrent à 6h30. Donc on peut aller au bain avant d'aller au travail, c'est un des exemples. Et puis le soir, ils mangent beaucoup plus tôt. Donc j'ai l'habitude de dire que, par exemple, quand on se retrouve en famille pour une fête quelconque, on ne va pas dîner, mais on va goûter parce que on va facilement manger vers 5 ou 6 heures.
Pourquoi vous avez choisi de faire guide à Budapest? C'est un métier que vous viviez déjà avant ou c'est Budapest qui vous a donné envie de devenir guide, Pascal?
C'est un moyen de conjuguer un peu mes études, mon expérience professionnelle précédente, donc dans le milieu culturel, et puis de voyager en Hongrie, de découvrir le pays et en même temps de faire découvrir ce pays à la population francophone.
La capitale hongroise, on dit qu'elle a conservé de son passé un visage multiple. C'est vrai qu'elle est, elle est multiple, cette ville Budapest ?
Elle est multiple parce qu'elle est déjà par sa géographie. Vous avez Pest et Buda, donc deux visages différents, une dichotomie de la ville. D'ailleurs, les Hongrois ne disent pas « je monte sur Budapest », ils montent sur Pest. Donc les Hongrois se sentent plutôt pestois que de Buda. Et puis un côté, j'allais dire, traditionnel qu'on retrouve dans l'architecture. Donc si on regarde du côté Buda, nous avons le quartier du château. Et puis un côté beaucoup plus festif, vivant. Et donc là, par exemple, on ira dans le quartier juif, qui est le quartier de sortie et de vie culturelle à Budapest.
Chaque après-midi, RTL autour du monde.
Jean-Sébastien Petit-Demange, Sidonie Bonnec.
Nous sommes en Hongrie avec Pascal Michaud et les guides à Budapest. Il nous offre une visite très privée de la ville. Pascal, l'une des caractéristiques de Budapest, c'est ce fleuve qui fend la ville en deux.
Oui, c'est le Danube. Hein, donc le Danube qui traverse la ville sur 29 km et qui divise la ville en deux. Mais à l'origine, il y avait trois villes. Il y a Buda et Pest. Donc des quartiers aussi avec beaucoup de quartiers très différents les uns des autres.
Et Pest et Buda, Pascal, sont deux parties de la ville très différentes. Par exemple, qu'est-ce qui caractérise Pest par rapport à Buda ? Elle est peut-être plus moderne, c'est ça ?
Alors Pest, comme je le disais, c'est la ville des Hongrois. C'est la ville démocratique, économique, industrielle encore. Et Buda est une ville plutôt allemande dans l'esprit. Vous regardez les monuments que vous avez à Buda, vous avez le palais royal et le quartier du château. Donc c'est plutôt l'image du passé et de l'aristocratie et de l'empire. Et puis c'est Buda, c'est le quartier résidentiel de Budapest.
Vous avez une préférence pour l'un des deux quartiers ou vous trouvez que Buda et Pest se complètent merveilleusement bien ?
Les deux se complètent merveilleusement bien. Et moi, j'ai trouvé le trait d'union, puisque ma femme vient de Pest, et nous habitons à Buda. Donc, tout va très bien.
Pascal, le Danube, on a l'impression que c'est un peu l'obsession de la ville. C'est lui qui donne aussi un aspect un peu mystérieux, un peu grandiloquent à la ville à Budapest.
Ah, il donne un aspect majestueux, et puis quand il fait très chaud, par exemple, comme maintenant, aller sur les bords du Danube, on est sûr qu'on va retrouver un petit vent frais. Et puis, pendant très longtemps, c'était un obstacle, puisqu'il n'y avait pas de pont sur le Danube. Donc, on pouvait rester bloqué d'une rive à une autre plusieurs mois, notamment en hiver. Et maintenant, c'est la liaison. Et on va très vite d'un côté à un autre. Mais c'est comme si on allait d'un monde à un autre.
Et on s'y balade comment ? C'est un peu comme sur la Seine, à Paris. Il y a des bateaux mouches, des petites navigations, comme ça ?
Il y a un système comme la RATP à Paris, donc qui permet de circuler par petites navettes dans le centre en fait, de Budapest. Mais sinon, il y a des excursions à faire en bateau. Donc on peut remonter jusqu'à, dans la boucle du Danube, jusqu'à Esztergom. Donc là, on est vers le nord de la Hongrie. On peut même aller jusqu'à Vienne en bateau ou en hydroglisseur. Donc c'est vraiment un moyen de locomotion.
Pascal, vous êtes guide à Budapest, vous avez un site internet qu'on a mis d'ailleurs, on a mis le lien sur le site de l'émission RTL Autour du Monde. Déjà, on peut préparer son voyage ou même en apprendre un peu sur Budapest. Et ce qui est intéressant, c'est que vous proposez des balades et des visites thématiques. Il y en a une, par exemple, qui m'a interpellée, c'est Budapest insurgé.
Bon, sur la visite, c'est vrai que moi, j'essaie de proposer des visites un peu thématiques qui permettent de découvrir le patrimoine et la richesse du pays. Puis Budapest insurgé, c'est une histoire récente puisque c'est 1956. Et c'est encore très vivant dans l'esprit et dans le cœur des Hongrois.
Vous nous racontez un petit peu ?
À l'insurrection de 1956, donc débute le 23 octobre 1956, et sur trois semaines, cette insurrection, ce mouvement populaire va faire trembler le pouvoir de l'URSS à Moscou. Finalement, les Russes vont écraser l'insurrection, donc ça va être une souffrance énorme avec de nombreux exilés. Plus de 200 000 personnes qui vont s'exiler à cette époque, de nombreux morts également.
Il y a la Budapest insurgée, historique, forte, et puis aussi la Budapest mélomane que vous mettez en valeur, on passe un peu du coq à l'âne. C'est une ville de musique ?
C'est une ville de passionnés de musique. Et une ville de musique, oui, parce que par exemple, vous venez à Budapest mars-avril, vous avez le festival du printemps de Budapest sur 15 jours, 3 semaines, où vous avez une programmation de musique classique, et puis de théâtre, d'exposition incroyable, dans tous les espaces culturelle, vous trouvez de la musique dans les églises, dans les salles de spectacle, c'est fabuleux, la programmation est fabuleuse. Et puis, vous avez une programmation toute l'année, que ce soit à l'Opéra ou au Palais des Arts, sur les rives de Danube.
Chaque après-midi, RTL autour du monde.
Sidonie Bonnec, Jean-Sébastien Petit-Demange.
Et nous accueillons les deux auditrices qui vont jouer avec nous et répondre à nos questions. Bonjour Georges.
Bonjour Sidonie. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour Georges.
Est-ce que vous appelez Georges en hommage à l'écrivain Georges Sand?
Peut-être bien.
Peut-être
je suis d'origine antillaise.
Ah, d'accord.
Donc chez nous, c'est très commun.
Vous nous appelez d'où, Georges?
Je vous appelle de Hondres, dans les Landes.
Vous avez forcément beau temps.
Très très chaud, très très sec.
Donc vous êtes mis à l'ombre, Georges, pour nous répondre, pour répondre à nos questions.
Oh oui, surtout en étant bronzé.
Je vous propose de commencer. Trois questions pour vous.
D'accord.
Quelle race de chevaux utilisée en haute école fut sauvée en Hongrie par le général Patton? Les Lipizzans ou les Lusitaniens?
Les Lusitaniens.
C'est noté.
À quelle famille appartient la langue hongroise? Aux langues slaves ou aux langues finno-ougriennes?
Oh, je vais dire slave.
C'est noté.
Troisième et dernière question pour vous, Georges. Avec quoi peuvent être chauffées certaines institutions sociales hongroises? Avec d'anciens billets de banque ou avec la charpente d'un monument désaffecté?
Oh, je vais dire la deuxième solution, les monuments désaffectés.
La charpente. Georges,
oui,
la race de chevaux, ce ne sont pas les Lusitaniens, ce sont les Lipizzans, qui ont été massivement utilisés par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. À la fin de la guerre, ils étaient très convoités, mais surtout pour leur viande. Et Patton a monté une opération en Autriche pour les soustraire aux soviétiques à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, derrière les lignes. Et 250 chevaux ont été sauvés comme ça, et la race a été préservée, et il existe encore des Lipizzans grâce au général Patton. Ça n'est pas une langue slave, le hongrois, Georges. C'est une langue d'origine finno-ougrienne, comme l'estonien et comme le finnois. C'est une des rares langues d'Europe à ne pas avoir d'origine indo-européenne. C'est une langue plutôt difficile à apprendre. C'est pas simple, parce qu'on a très peu de points communs avec la langue, avec le hongrois. Et puis définitivement, ça s'arrange pas, parce que c'est on chauffe certaines institutions sociales avec des billets de banque, parce que 200 milliards de forint, la monnaie hongroise, servent chaque année, sont usagés bien sûr, sont retirés du circuit, et on en fait des briquettes, et
c'est
donc
chic.
Ça fait 50 tonnes de papier qui servent de combustible. Donc il n'y a pas de point pour vous, genre, je suis désolé.
C'est pas grave, je recommencerai.
D'accord.
Bah attendez, Nicole, si Nicole ne marque pas de points,
ah bah oui,
on peut avoir une égalité.
On peut.
Et vous pouvez encore partir en finale, étonnamment.
Oui.
Bonjour Nicole.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui.
Vous nous appelez d'où?
De La Flèche.
Ça se trouve où?
Dans la Sarthe.
Est-ce qu'il fait beau par chez vous?
Très chaud.
Bon, parfait. C'est partout pareil, je crois. Je vous propose de jouer, Nicole, avec nous.
Oui.
Comment les Romains appelaient-ils Budapest? Aquincum ou Budae?
Budae.
C'est noté.
Quel est le premier pont à avoir enjambé le Danube? Le pont des Chênes ou bien le pont bleu?
Le pont des Chênes.
C'est noté.
Tivadar Puskás a créé pour la première fois au monde à Budapest une imprimerie à grande échelle pour la Bible ou un central téléphonique?
Une imprimerie à grande échelle.
C'est noté. Les Romains, à l'époque, quand ils occupaient ce coin du monde, ont appelé Budapest Aquincum et non pas Budae. C'était à l'époque juste un castrum sur les collines au-dessus du Danube. Vous ne marquez pas de points pour cette première question. En revanche, je vous en marquez un sur la deuxième, parce que c'est effectivement le pont des Chênes qui a été le premier pont à enjamber le Danube. Alors, ça peut paraître étonnant, mais ce pont, il a été construit en 10 ans, entre 1839 et 1849. Le premier pont à Budapest date du 19e siècle.
C'est fort récent,
Il fait 390 mètres. Il faut dire que c'était absolument considérable. Imaginez, ça fait le Danube à cet endroit est extrêmement majestueux, est extrêmement large. large. Et avant, on utilisait des ponts flottants qui venaient de la technique ottomane ou des bacs. Et ce pont s'appelait le pont des, s'appelle toujours d'ailleurs le pont des chênes. Premier point. Deux, et vous n'en marquez pas un deuxième parce que Tivadar Puskás n'a pas inventé une imprimerie, mais il a inventé le central téléphonique. C'est à Budapest qu'on a créé ces centraux téléphoniques. Et pour tester le central téléphonique, eh bien, Tivadar disait halom, halom, qui veut dire tu m'entends en hongrois. Et vous m'avez compris, le halom est devenu allô dans la plupart des pays du monde.
Que d'invention,
on doit à la Hongrie le fait de dire allô dans le téléphone.
Et un bien, point pour Nicole, vous. Ça Nicole. Vous permet de marquer un point et de partir en finale. Bravo.
Oui, merci.
Mais c'est un plaisir. Georges, on vous envoie un guide du routard pour la destination de votre choix, puis une montre RTL.
Oui, parce que la dernière commençait à dater.
Ah, ben voilà, on va renouveler. C'est une très jolie montre homme ou une très jolie montre femme?
Oh, une montre femme.
Mais bien sûr, vous avez raison.
Qu'à faire.
On vous embrasse.
Mais de même, et puis ben, j'espère rejouer une prochaine fois avec vous.
Avec grand plaisir, plaisir, Georges.
RTL autour du monde.
Nous découvrons Budapest, la capitale de la Hongrie, avec Pascal Michaud qui est tombé amoureux de la ville et a décidé de devenir guide pour avoir un prétexte pour arpenter la belle pendant des heures et des jours. Pascal, Budapest a plusieurs visages. On peut aussi venir la découvrir pour ses eaux thermales.
Les eaux thermales étaient connues déjà des Celtes et des Romains. D'ailleurs, le nom de Budapest à l'origine en romain, c'est Aquincum, qui vient du Celte Aquinc, qui veut dire eau abondante. Donc c'est vrai que à Budapest et en Hongrie, sur l'ensemble du territoire, sur 80% du territoire, on trouve des sources thermales. Donc une ville et un pays d'eau thermale.
Et comment on peut en profiter? On fait des cures, c'est ça? Ou on fait juste des bains de loisirs?
Pour chaque bain ou pour chaque source, il y a des vertus thérapeutiques particulières. Donc ça, il faut consulter. Par exemple, les Hongrois vont consulter le médecin pour certaines affections et vont recevoir 10 entrées, par exemple, dans les bains à Budapest. Mais c'est un lieu de vie, un lieu de détente. Donc vous venez à Budapest simplement pour vous détendre. Je conseille généralement d'aller dans le bain Széchenyi, qui est le grand bain thermal de Budapest, d'y passer 2 heures, 2 heures et demie maximum, parce qu'après vous sortez peut-être trop détendu.
Alors pour se remonter un petit peu, justement, il y a la cuisine, parce qu'on peut venir aussi à Budapest pour se régaler. Quels sont les mets, les plats typiques de la ville?
La cuisine hongroise, c'est une cuisine, instinctive, généreuse, gourmande. Donc on vient en Hongrie, ce n'est pas pour faire un régime, ça c'est évident.
Pour savourer.
C'est pour savourer, pour se faire plaisir.
Qu'est-ce qu'on savoure alors?
Alors on savoure la goulash, c'est le grand classique, la soupe goulash. Mais vous trouvez également de nombreux plats de viande.
Juste, vous nous rappelez ce que c'est la soupe goulash?
Alors la goulash, c'est une soupe à base de bœuf et de légumes avec une pointe de paprika qui est le condiment, l'épice principale de la cuisine hongroise.
Et c'est délicieux.
Et vous avez de nombreux ragoûts, donc à base de viande, que ce soit du poulet, du bœuf. Et à chaque plat correspond une sorte de pâte particulière. Donc vous avez une variété de pâtes immense. Et à côté de ces plats principaux, vous avez toujours une petite assiette de pickles, hein, de légumes, de concombres ou de choux au saumur. Et qui permet aussi d'avoir un peu de crudité avec le plat principal.
Est-ce que Budapest est réputé aussi pour ses pâtisseries? Parce que là, je suis en train de penser au dessert, fatalement.
Bah voilà, on n'avait pas terminé le repas.
Voilà. Vous m'avez laissé sur ma faim, Pascal.
Il faut venir absolument à Budapest, parce qu'on connaît par exemple Vienne pour ses cafés. Mais il y a un renouveau des cafés, des anciens cafés du tournant du siècle, 19e, 20e siècle. Donc de nombreux cafés se sont réouverts, par exemple le Gerbo ou le Central. Et là, vous avez un décor et en plus, vous avez des pâtisseries qui sont fabuleuses. Donc je pourrais vous conseiller le Esteradi, le Gerbo, et encore 1000 autres pâtisseries.
Pascal, elles sont comment les nuits à Budapest?
Elles sont chaudes en ce moment, toujours festives et très dynamiques. Vous avez une scène de musique contemporaine, que ce soit bon, du jazz ou techno ou d'autres types de musique très 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 riches. Et puis vous avez cette particularité à Budapest, notamment dans le quartier juif, les cafés ruines, ce qu'on appelle les cafés ruines. Donc ce sont des bâtiments qui sont en très mauvais état, laissés à l'abandon. Des fondations décident de louer l'espace pour en faire un lieu de vie culturelle et un lieu de sortie, de rencontre. Là, vous retrouvez des bars, mais dans des endroits un peu improbables. Vous en comptez 15-20 dans le quartier juif, donc vous pouvez faire un parcours incroyable dans ce quartier.
Pascal, vous nous avez donné envie de venir visiter Budapest. Quelques petites infos pratiques. Quelle est la meilleure période pour venir dans cette ville?
Si vous cherchez le soleil, comme maintenant, venez.
L'été, c'est génial.
L'été, c'est génial, mais c'est relativement chaud. Hein. Donc là, on était sur des températures 35, 39, parfois 40. Mais si vous venez au printemps ou septembre jusqu'en novembre, vous avez une arrière-saison qui est également sublime. Et puis, je conseille même de venir en hiver, parce que vous avez une atmosphère, un visage complètement différent de la ville. Et puis, vous avez les marchés de Noël qui sont restés traditionnels et très agréables à visiter.
Et la vie n'est pas trop chère, par exemple, pour se loger? Ça reste raisonnable? Et il y a plusieurs propositions et formules de...
C'est plus que raisonnable, puisque vous avez des offres très intéressantes. De plus en plus d'hôtels s'ouvrent à Budapest, donc vous avez une concurrence assez forte, donc qui permet d'avoir des prix intéressants. Sur du 4 étoiles, vous tombez déjà des prix autour de 70 euros. Et puis, vous avez pour la basse saison, notamment donc automne-hiver, une offre là qui va être lancée par l'Office du tourisme de Hongrie, qui vous permet d'avoir 3 nuitées pour le prix de 2 ou 4 nuitées pour le prix de 3.
C'est intéressant, en effet.
En effet.
Si on veut découvrir Budapest et la Hongrie plus généralement, on peut se rendre sur votre site. On l'a mis sur le site internet RTL Autour du Monde. Et
bonjour,
puis,
merci.
On se met en contact avec vous. Et puis, je crois que vous êtes le guide idéal. Hein.
Venez, hein, je vous guide et je vous montrerai toutes les richesses de Budapest. Et puis, avant de partir, vous pouvez jeter un coup d'œil également sur le site de l'Office de tourisme de Hongrie en France, qui
merci.
Vous donne également beaucoup d'informations.
Merci Pascal et bel été au chaud. Très chaud, très chaud.
Merci à vous Sidonie. Et puis, venez bientôt à Budapest.
Avec grand plaisir. Merci.
RTL Autour du Monde.
Nous achevons notre voyage à Budapest par la fameuse finale question de culture générale. Un séjour à gagner dans une résidence, Pierre et Vacances, des guides du routard, des montres RTL et des auditeurs qui ont bien répondu à nos questions.
Absolument.
Nicole, Daniel et... Marie, parce que nous n'avons...
Et Marie, parce que...
Nous ne pouvons plus joindre Serge.
Ben voilà, on n'a pas réussi à joindre Serge depuis 10 bonnes minutes. Donc, ça fait les affaires de Marie, qui était son adversaire en début d'émission. Donc, Marie, c'est vous qui allez débuter cette finale.
Vous êtes là, Marie?
Avec nous. Oui.
Oh oui, vous êtes là.
Marie qui est très surprise, du coup, parce que... Forcément, je vous rappelle le principe de la finale. 4 questions, 1 minute. Vous devez répondre au maximum de bonnes réponses en un minimum de temps. Marie, êtes-vous prête?
Prête.
Chrono.
Top chrono.
Quelle est la monnaie en Hongrie?
Pass.
Le forint.
Qui est le célèbre roi des Huns qui a envahi la plaine de la Hongrie?
Pass.
Attila.
Comment s'appelle le lac d'eau douce de Hongrie, connu pour être le plus vaste d'Europe centrale?
Balaton.
Bonne réponse.
Le drapeau hongrois est tricolore, rouge, blanc et...
vert.
Bonne réponse.
Stop. Alors, j'en ai encore une, plus.
C'est vous qui faites le chrono, Marie, maintenant. Mais très bien.
Alors, Marie, 2 bonnes réponses en 22 secondes.
Mais c'est pas mal.
C'est pas mal du tout.
Daniel.
Oui.
C'est à vous.
C'est à nous.
C'est à vous. Vous êtes prête?
Oui.
Alors, top chrono.
Quel fleuve traverse Budapest?
Le Danube.
Bonne réponse.
Quel jeu a inventé Erno Rubik?
Le Rubik's Cube.
Bonne réponse.
Cube.
Oui.
Quel épice rouge retrouve-t-on très souvent dans la cuisine hongroise?
Le paprika.
Bonne réponse.
Quel acteur ayant joué dans Spartacus et amicalement vôtre est d'origine hongroise?
Un acteur... je ne sais pas.
Vous passez?
Oui, passe.
Hop, et ben c'était Tony Curtis.
Tony Curtis, ah.
Ça nous fait combien de bonnes réponses?
Alors, ça nous fait pour Daniel 3 bonnes réponses. Donc, Marie, à nouveau, allez, on va être généreux. Une deuxième montre RTL et une deuxième guide du routard.
C'est trop gentil.
Non,
c'est normal.
C'est normal. Oui, je suis fou.
Ça va être pour le couple, alors.
Vous êtes dépensier, Jean-Sébastien Petit-Demange.
Et Daniel, pour le moment, vous avez la main. On va voir que fait Nicole.
3 bonnes réponses,
3 bonnes réponses
secondes
en 27 secondes.
Ok, je note.
Nicole.
Oui. À nous deux, à nous trois. On y va. Chrono, Jean-Seb.
Nicole, c'est à vous. Top chrono.
Comment appelle-t-on le peuple hongrois?
Les Hongrois, les...
Les Magyars.
Quel acteur français, auteur du best-seller Métronome, est d'origine hongroise?
Je sais pas, passe.
Laurent Deutsch.
Quel est le plat national hongrois dont le nom signifie soupe du bouvier?
Goulash.
Bonne réponse.
Sous quel surnom est plus connue Elisabeth de Wittelsbach, impératrice d'Autriche et reine de Hongrie?
Je passe.
Si, si. Nicole, une bonne réponse seulement, peu importe le temps. Daniel, c'est vous qui partez.
Oh, c'est formidable.
Avec Pierre et Vacances.
Oh, bah écoutez, je vous remercie RTL, voilà, c'est formidable.
Daniel, cette nuit et 7 jours, pour quelques personnes, on vit le jour aussi, hein.
Oui.
Une résidence Pierre et Vacances. Vous pouvez choisir parmi 80 résidences en France.
Ben, oui, en effet.
Et il y en a tellement que, bon, il y a Alpes d'Huez, Val d'Isère, Biscarrosse, Biarritz, Deauville, Pérouse-Guirec. Bon, la liste est trop longue pour que je vous la lise complètement. Bravo en tout cas.
Formidable.
Nous sommes ravis pour vous.
Merci.
On vous embrasse.
Bel
été et belles vacances du coup.
Oui.
Jean-Sébastien, demain on poursuit notre tour d'Europe.
Absolument.
On ira en Espagne, dans une région que j'adore, que je connais bien, c'est l'Andalousie.
Ah,
Séville.
Okay. Bah oui, on s'est gâté par le soleil, la Costa del Sol. Malheureusement, la Catalogne est en train de brûler, mais la Costa del Sol, enfin apparemment ça s'arrange. Dieu merci, la Costa del Sol avec ses villages blancs, avec sa terre rouge, avec ses cieux désespérément bleus. C'est un endroit, l'Andalousie, qui a été gâté par la nature, par l'histoire. Et nous allons découvrir cette ville magnifique de Séville demain.
Et nous allons prendre le soleil à Séville, notamment avec le chanteur Nilda Fernandez. Il est d'origine andalouse. À demain, Jean-Sébastien Petit-Demange.
Mais à demain, Sylvanie. Je vous fais un gazpacho et je viens demain avec.
Ouh, quel plaisir.
Vous écoutez RTL.